franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une gigantesque manipulation politique, l'une des plus retentissantes de la Ve République, l'affaire Clearstream. Ce nom vous dit forcément quelque chose, tant il a fait la une de l'actualité pendant presque une décennie en France, dans un passé très récent, avec son lot de rebondissements en tout genre qui n'ont fait qu'obscurcir un dossier déjà très opaque. En réalité, l'affaire Clearstream est une affaire de blanchiment d'argent qui met en cause les milieux politico-financiers via une banque basée au Luxembourg et qui porte ce nom devenu célèbre, Clearstream. C'est le journaliste Denis Robert qui l'avait révélé en 2001 dans son ouvrage intitulé « Révélation ». Ensuite, à partir de 2004, c'est une autre intrigue qui vient se greffer, un règlement de compte au sommet de l'État qui va envahir tout l'espace judiciaire, politique et médiatique. D'accusateur légitime d'un système de corruption financière, parce qu'il est journaliste, parce que nous sommes en démocratie, Denis Robert s'est retrouvé lui-même accusé en 2006 d'avoir participé à une manœuvre de déstabilisation politique, un comble. D'ailleurs aujourd'hui, la justice reconnaît l'innocence et l'impartialité du travail de notre confrère dans ce dossier. Et c'est avec un journaliste de France Inter, cette fois, que nous allons aborder ce sujet en deuxième partie d'émission. Après le récit, ce sera avec Franck Cognard du service police-justice. Il a couvert cette affaire, donc pour France Inter. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Seigle, à la technique aujourd'hui Pauline Laverdure.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Le 21 septembre 2009 s'ouvre devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris le procès de l'année, celui de l'affaire Clearstream. Les débats doivent se tenir pendant presque un mois pour démêler une bonne fois pour toutes le vrai du faux dans ce dossier aux multiples rebondissements depuis 5 ans. Sur le fond, il s'agit d'une affaire de dénonciation calomnieuse dans laquelle se sont constituées près de 40 parties civiles. Parmi elles, et c'est là que réside la particularité de toute cette affaire et qui lui a valu une telle résonance, il y a un président de la République en exercice, Nicolas Sarkozy en l'occurrence. De l'autre côté, dans le box des prévenus, ceux qui sont accusés d'avoir comploté contre le président et 39 autres personnes. On trouve un ancien vice-président du groupe de défense européen EADS, Jean-Louis Gergorin, un mathématicien trader déjà connu par la justice, Imad Laoud, un journaliste d'investigation spécialiste des délits financiers, c'est Denis Robert, et un ancien auditeur d'une firme d'analyse financière, Florian Bourges. Et, bien sûr, personnage central qui rend ce procès si exceptionnel, un ancien Premier ministre.
Pendant que la garde du palais de justice tentait de ménager un accès à la salle d'audience, Dominique de Villepin a soigné sa descente dans l'arène judiciaire. Il lui donne un ton personnel. Son épouse et ses enfants l'accompagnent là où les autres sont flanqués d'avocats. Et un tour solennel dans un registre que l'ancien Premier ministre affectionne.
Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy, qui est aussi président de la République française. J'en sortirai libre et blanchi.
Quelques applaudissements se font entendre. Celui qui est soupçonné de complicité de dénonciation calomnieuse a lancé sa défense. Elle sera politique. Comme on laverait son linge sale en famille, ce grand procès commence à la manière d'un duel que se livrent deux ennemis. D'un côté Nicolas Sarkozy, de l'autre Dominique de Villepin. Ils sont de la même famille politique, l'UMP, mais tout ou presque les oppose depuis des années déjà. C'est le énième prolongement du schisme de 1995 au sein de la famille néo-gaulliste, l'affrontement des chiraciens et des baladuriens, qui est devenu celui des villepinistes et des sarkozistes. Cette échéance judiciaire apparaît comme le dernier round d'un règlement de compte au sommet de l'État. Il ne faudra pas attendre très longtemps pour en voir les premières manifestations. En effet, deux jours seulement après le début de l'audience, Dominique de Villepin, qui s'attendait à des attaques de ses quatre co-prévenus, est finalement la cible de Nicolas Sarkozy, qui envoie sa première torpille à distance. Il est à New York pour le sommet du G20, et face aux journalistes Laurence Ferrari et David Pujadas, il utilise une formule concernant Dominique de Villepin qui fera date.
J'ai déposé plainte contre X. quand j'ai découvert avec stupéfaction que j'étais titulaire de 2 comptes dans une banque dont j'ignorais même le nom. Et chacun aurait eu le même sentiment et la même réaction.
Est-ce que vous retirez votre
plainte ? Au bout de 2 ans d'enquête, 2 juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant un tribunal correctionnel.
Coupable. Le mot n'échappe pas aux avocats de Dominique de Villepin qui créent un incident d'audience et qui remettent en cause la constitution de partie civile de la part du président de la République. Mais enfin, de quel droit se permet-il de désigner un coupable avant la justice ? Dans la presse et au sein même de son parti, nombreuses sont les critiques à l'encontre de Nicolas Sarkozy et pour cause. Maître Thierry Herzog, son avocat, tente de calmer le jeu et de ramener l'attention des Français sur le procès, sur ceux qui comparaissent, ceux qui sont dans le banc, des prévenus sur le banc. L'opinion, justement, elle découvre médusée la haine qui nourrit les relations entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Alors, le détournement d'argent, les malversations financières autour de Clearstream, ça ne pèse pas lourd à côté de ce règlement de compte politique et industriel qui a débuté 5 ans plus tôt et dans lequel il appartient désormais à la justice de se frayer un chemin pour établir toute la vérité. Pour comprendre comment éclate l'affaire Clearstream, il est nécessaire de remonter quelques années auparavant, au printemps 2004, à une période où Jacques Chirac, président de la République, fait de Dominique de Villepin son ministre de l'Intérieur et de Nicolas Sarkozy son ministre de l'Économie et des Finances. 2 grands fauves dans un même gouvernement, 2 hommes qui croient ferme à leur destin politique et personnel. On connaît la musique, on l'a entendu bien souvent, surtout à droite, championne des divisions. Tout commence dans le courant du mois de mai 2004, quand le juge d'instruction Renaud van Ruymbeck, qui enquête sur l'affaire des frégates de Taïwan et ses commissions occultes, reçoit plusieurs courriers et un CD-ROM de la part d'un expéditeur anonyme. Dans ses écrits, celui qui n'est autre qu'un corbeau, c'est la définition, donne les noms de personnalités qui auraient touché des commissions dans l'affaire des frégates, commissions versées sur des comptes secrets d'une banque luxembourgeoise, Clearstream. Sur le CD-ROM, le juge van Ruymbeck découvre des listings de comptes de la dite banque sur lesquels apparaissent le nom de plusieurs personnalités de la politique et des affaires. Parmi eux, Alain Gomez, ancien PDG de Thomson CSF, Philippe Delmas, vice-président d'Airbus, Dominique Strauss-Kahn, alors député, mais aussi Jean-Pierre Chevènement ou encore Alain Madelin et Nicolas Sarkozy. Vu la personnalité de ce ministre-là, qui fait courir tous les médias au moindre de ses déplacements, y compris ceux qui n'ont aucun intérêt, l'affaire Clearstream se met à intéresser tout le monde. D'autant plus qu'on avait déjà entendu parler de cette banque dans une précédente affaire de blanchiment d'argent et de fraude organisée à grande échelle. C'était l'affaire Clearstream, première du nom. Explication.
Clearstream, c'est un organisme interbancaire qui conserve la trace de toutes les transactions effectuées par les banques entre elles dans le monde entier. En d'autres termes, c'est un peu la banque des banques. Elle a le statut très particulier d'être une chambre de compensation. Son rôle est de fluidifier les échanges et d'enregistrer, tel un notaire, toutes les transactions financières qui se déroulent à travers le monde. On pourrait dire qu'elle est un peu la mémoire de l'argent. Une mémoire des mouvements financiers qu'elle conserve et entretient dans d'immenses registres informatiques. Basée au Luxembourg, Clearstream bénéficie de la protection du secret bancaire du duché, ce qui rend donc toutes ses pratiques très opaques.
En 2001, c'est l'enquête de notre invité aujourd'hui, le journaliste Denis Robert, qui exhale un premier parfum de scandale sur Clearstream et le monde de la finance en général. Après un minutieux travail de recherche, aidé en cela par les précieux renseignements fournis par un ancien dirigeant de la banque luxembourgeoise, Ernest Backus, le journaliste affirme dans son ouvrage Révélation, document à l'appui, que Clearstream est une lessiveuse à la solde d'une mafia politico-industrielle, avec comme méthode un système vieux comme le monde.
Il faut comprendre que Clearstream, c'est à la fois un comptoir de transit des flux financiers et de titres, plusieurs milliards d'euros y transitent chaque jour, et en même temps, c'est aussi une banque sur laquelle on peut déposer des fonds. Or, une analyse approfondie du système démontre l'existence d'une double comptabilité. La plupart des sociétés qui ouvrent un compte sur place en ont un officiel et un autre non publié. Ce dernier a pour vocation d'être un compte plus discret, et plus souple. Un compte qui peut servir à des financements occultes, à recevoir l'argent de rétrocommission ou à rendre propre de l'argent sale. Comme seule et unique trace de ces comptes secrets, des documents qu'on appelle listing.
Après les révélations du corbeau, les principaux concernés ne tardent pas à réagir. Ainsi, quelques mois plus tard, alors que les médias s'emparent de l'affaire, le vice-président d'Airbus, Philippe Delmas, porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Les juges Jean-Marie Duy et Henri Pons sont saisis et commencent à enquêter pour retrouver le correspondant anonyme qui a abondamment alimenté le juge Van Ruynbeck en informations. En décembre de la même année, c'est par voie de presse qu'on apprend que la DST, les services secrets intérieurs français, ont effectué une enquête sur le sujet dont les résultats révèlent qu'un très haut cadre de l'industrie de défense française est impliqué dans ces dénonciations. On l'apprendra bien plus tard, mais les agents de la DST en avaient conclu, je les cite, que les documents fournis au juge Van Ruynbeck étaient des faux conçus par un ou plusieurs corbeaux pour nuire. Et la DST ajoute, il s'agit là d'une probable tentative de manipulation ou d'un stratagème visant à utiliser la justice dans une logique unilatérale. Allez comprendre. Nicolas Sarkozy accuse alors Dominique de Villepin, ministre de l'Intérieur, d'entretenir l'omerta sur ce rapport qui contiendrait des pièces pouvant l'innocenter. Nicolas Sarkozy demande en outre la levée du secret défense qui entoure ce rapport afin que la justice puisse travailler, ce qui sera fait partiellement. Quatre mois plus tard, en avril 2005, lorsque Nicolas Sarkozy devient à son tour ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin décroche Matignon.
Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté, de ma mémoire qu'à la bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter, si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais.
Affaire sensible sur France Inter, aujourd'hui l'affaire Claire Stream. Le 7 avril 2005, la commission consultative du secret de la défense nationale rend un avis positif sur la levée partielle du secret qui entoure l'enquête de la DST sur le fameux corbeau. Deux noms font alors leur apparition, celui du vice-président de l'ADS, Jean-Louis Gergorin, et d'un mathématicien trader d'origine libanaise travaillant pour la DGSE, les services secrets extérieurs. Il s'appelle Imad Laoud. Deux personnages au parcours et au carnet d'adresses qui pour le moins interpellent.
Jean-Louis Gergorin. Il est, lorsque son nom apparaît dans l'affaire, le vice-président en charge de la coordination stratégique chez EADS, le groupe de défense européen. Cet ancien de chez Matra, proche du défunt Jean-Luc Lagardère, est un de ces brillants esprits, considéré au sein même de ADS comme un grand stratège, mais c'est aussi un commis de l'État, un familier des hauts cabinets du pouvoir, du monde des services secrets et des journalistes bien informés. En 1973, il participe à la création d'un organe de prospective du ministère des Affaires étrangères, dans lequel il recrute un ancien agent du SDEC, le général Philippe Rondeau. Mais il recrute également un jeune énarque, un certain Dominique de Villepin.
Voilà donc le lien qui, dès le début des années 80, unit Jean-Louis Gergorin, le général Philippe Rondeau et Dominique de Villepin. Mais une question reste en suspens. Quel est le rapport ou quels sont les rapports entre un stratège du groupe de ADS et ce jeune mathématicien trader du nom d'Imad Laoud ?
C'est en octobre 2002 qu'Imad Laoud s'invite dans la vie de Jean-Louis Gergorin. Le mathématicien libanais sort tout juste de prison où il est en préventive dans une affaire d'escroquerie et d'usage de faux. Grâce à l'intermédiaire de son frère Marwan, qui travaille chez EADS, il rencontre Jean-Louis Gergorin. Imad Laoud prétend qu'il veut se réhabiliter, servir son pays et surtout qu'il a, dans les années 90, géré des comptes bancaires appartenant à la famille Ben Laden. En plein climat post-11 septembre, période où Osama Ben Laden est le terroriste le plus recherché au monde, c'est une information qui fait d'Imad Laoud un précieux atout pour les services secrets. Jean-Louis Gergorin décide de le présenter à son vieil ami, le général Philippe Rondeau, qui, après l'avoir criblé, le fait recruter au service de la DGSE. Laoud va alors se rapprocher de Denis Robert et de Florian Bourges pour obtenir les fameux listings.
Dès lors, la police, qui ne sait pas encore où elle met vraiment les pieds, mène des auditions et des perquisitions dans les bureaux de Laoud et Gergorin. Elle saisit du matériel informatique pour expertise. Au mois d'octobre 2005, c'est au tour du journaliste Denis Robert d'être entendu par les policiers qui veulent savoir comment et pourquoi éventuellement le journaliste ayant en possession ses listings et s'il a procédé sur ses documents à une quelconque modification. C'est le début d'une très rude épreuve pour le journaliste. Le début de l'année 2006 est marqué par un nouveau tournant dans une affaire qui ne ressemble décidément à aucune autre, car un ministre en exercice, on l'a dit, Nicolas Sarkozy, se constitue partie civile, mais aussi parce que des ministres des précédents gouvernements, Dominique Strauss-Kahn, Alain Madelin, Jean-Pierre Chevènement, sont partie civile également, tout comme le groupe européen de défense, EADS. Puis au mois d'avril, ce sont les bureaux de la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, qui font l'objet d'une perquisition.
Son propre bureau, perquisitionné, ses agendas, saisis. Jeudi, deux juges d'instruction ont passé plus de 3 heures dans le cabinet ministériel de Michèle Alliot-Marie. Leur enquête vise une manipulation dont aurait été victime, entre autres, Nicolas Sarkozy, qui a porté plainte. Les juges cherchent à retracer le parcours de plusieurs lettres anonymes reçues en mai 2004 par Renaud Van Ruymbeek, un magistrat spécialisé dans les affaires financières. Dans l'une d'elles, une version modifiée du CD-ROM. Exemple, dans les comptes de cette banque italienne, quelqu'un a rajouté deux noms, Stéphane Boxa, Paul de Nagui, des identités fabriquées avec les autres prénoms et le nom complet de Nicolas Sarkozy.
Dans la foulée, le magazine L'Express révèle que la ministre de la Défense savait dès l'année 2004 par des rapports secrets que l'affaire Clearstream n'était qu'une manipulation et que les supposés listings étaient des faux. Une conclusion qui rejoint celle des agents de la DST. Le lendemain, l'affaire fait de nouveau la une de la presse. Selon les journalistes du quotidien Le Monde, l'homme de l'ombre de la République et des services, le général Philippe Rondeau, aurait affirmé, face au juge, avoir reçu en janvier 2004 l'ordre de Dominique de Villepin d'enquêter sur des personnalités politiques, dont Nicolas Sarkozy. Pour attester le témoignage de ce maître espion français, il y a une note signée de sa propre main que les juges ont saisie à son domicile. Une note sur laquelle on peut lire « Enjeu politique Nicolas Sarkozy, fixation sur Nicolas Sarkozy ». Le lendemain, toujours dans la presse, le général, décidément bien bavard, dément et tente de dédouaner Dominique de Villepin de toute implication. En cette fin de mois d'avril 2006, dans les cabinets du pouvoir, entre révélation et démenti, l'ambiance semble se tendre davantage chaque jour. On se croirait à la cour du Louvre sous Catherine de Médicis, dans ses arcanes où traîne toujours un couteau assassin.
Hier midi, déjeuner entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Au menu, l'embarrassante affaire Clearstream. Un dossier qui vire à l'affaire d'État au rythme des parutions de journaux. Dans le Figaro ce matin, Dominique de Villepin révèle, c'est bien lui qui, avec l'accord de Jacques Chirac, a mandaté en janvier 2004 le général Philippe Rondeau. Cet expert du renseignement devait enquêter sur le sulfureux dossier des frégates de Taïwan, dans lequel la banque Clearstream serait impliquée. Mais pas question de s'intéresser à Nicolas Sarkozy, selon le Premier ministre, ce qu'il martèle encore ce matin.
Je suis, en tant que Premier ministre, profondément choqué par la mise en cause de personnalités. Je suis également choqué par certains amalgames qui sont faits et la mise en cause de l'État qui n'a eu d'autre but que de défendre la sécurité nationale et les intérêts de notre pays.
Le 19 mai, le Canard enchaînait 6 mai. Il affirme que Jean-Louis Gergorin a bien rencontré le juge Renaud van Ruymbeek dans le plus grand secret avant de lui envoyer les lettres et le CD-ROM. Dans une entrevue accordée aux Parisiens, l'intéressé reconnaît quelques jours plus tard être l'auteur des lettres anonymes qui ont été le point de départ de cette affaire. Le corbeau a désormais un nom, Jean-Louis Gergorin. Le 31 mai 2006, le parquet de Paris étend la saisine des juges Henri Pons et Jean-Marie Duy pour faux et usage de faux, afin de pouvoir enquêter sur l'origine de la falsification des listings de Clearstream. Dans les jours qui suivent, les magistrats mettent en examen Jean-Louis Gergorin, le corbeau, et Imad Laoud, son informaticien, accusé d'avoir modifié les listings pour dénonciation calomnieuse et faux et usage de faux. Au même moment, un autre protagoniste cité dans l'affaire, un ancien auditeur du groupe Arthur Andersen, à l'origine de la diffusion des listings original Clearstream, le dénommé Florian Bourges, s'exprime devant la presse. Oui, il reconnaît avoir divulgué les listings, mais non, il ne les a pas falsifiés. Il le dit sur France Inter au micro de Benoît Colombat.
Ces fichiers, j'ai donné à M. Laoud. Je n'étais pas le seul à voir ces fichiers-là. Évidemment, tous mes collègues, on était une trentaine de collaborateurs, avaient une copie de ces fichiers-là. C'est exact. Maintenant, toute la partie d'extraction, c'est moi qui l'ai réalisé pendant la mission, puisque ça faisait partie de mes attributions de la mission d'extraire ces fichiers-là. Donc même si éventuellement il y a eu d'autres sources, imaginons un autre auditeur d'Arthur Andersen, pourquoi pas, dans tous les cas, moi, parce que c'était ma mission, je peux authentifier que ces fichiers-là proviennent de mon ordinateur et que sont par conséquent une copie, une falsification de mes fichiers originaux. Le discours d'Imad Laoud était crédible. L'affaire Clearstream, à part Denis Robert, quelques journalistes et quelques initiés, ça intéressait personne. Donc avoir en face de moi un type qui me dit « j'ai besoin de ces fichiers-là dans le cas de lutte contre le terrorisme », ça me paraît crédible. Je suis à milieu d'imaginer que les fichiers que je vais donner vont, quelques années, quelques mois plus tard, correspondre à une manipulation. Donc aujourd'hui, la justice a toutes les preuves que j'ai apportées, toutes les copies des fichiers, tous les originaux, donc tout ce que j'ai avancé, en tout cas, est prouvable. Ce qui change quand même beaucoup de choses dans ce dossier. Puisqu'avant, chaque fois, on était sur des oui-dire. Maintenant, au moins, ils ont des preuves.
Résumons. Florian Bourges remet des listings dans un premier temps à Denis Robert lorsque le journaliste enquête sur l'affaire Clearstream, première du nom. Puis ce même Florian Bourges remet ces mêmes listings originaux à Imad Laoud qui vient les lui demander pour que le mathématicien Laoud les remette à son patron Jean-Louis Gergorin. Seulement, les listings qui arrivent entre les mains du vice-président du groupe EADS sont des faux. C'est Imad Laoud lui-même qui les aurait falsifiés pour y rajouter des noms, dont celui de Nicolas Sarkozy. Mais l'aurait-il fait spontanément ou sur demande de Jean-Louis Gergorin? Dans la foulée, les juges Duy et Pons vont entendre l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et la ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie avant d'interroger en qualité de témoin assisté le Premier ministre Dominique de Villepin, du gros poisson au palais de justice. En décembre 2006, les juges Pons et Duy mettent en examen Florian Bourges et le journaliste Denis Robert pour abus de confiance volé, recel de vol. Au printemps 2007, l'expertise informatique des fichiers saisis dans l'ordinateur d'Imad Laoud est remise au juge. Les noms et références bancaires envoyés anonymement au juge Van Ruymbeek figurent bien dans l'ordinateur du mathématicien. Dans les semaines qui suivent, les mises en examen de Jean-Louis Gergorin, Imad Laoud et Florian Bourges sont confirmées par la Cour d'appel de Paris. Les magistrats entendent une nouvelle fois le général Rondeau, et ils ont des atouts. Car les techniciens de la police scientifique ont réussi à récupérer des notes initialement détruites sur le disque dur de l'homme des services. Et parmi elles, l'une stipule que Dominique de Villepin aurait demandé au corbeau de l'histoire, Jean-Louis Gergorin, de balancer Nicolas Sarkozy. Et c'est un autre homme clé du feuilleton qui aurait raconté tout cela au général, le mathématicien déjà mis en examen, Imad Laoud. Au micro de France Inter, il dément.
Je nie totalement les propos que me prête Philippe Rondeau, je ne les ai jamais tenus, ni devant Philippe Rondeau, ni devant quiconque. Je l'ai sans doute rencontré le 28 mai. Alors le 28 mai, il a sûrement été question du buzz que faisait Clearstream à l'époque dans les milieux, mais à aucun moment je n'ai tenu les propos qu'il me prête.
Est-ce qu'à cette époque, vous savez que Jean-Louis Gergorin a rencontré le juge
non.
Van Ruynbeck?
À cette époque-là, je ne le savais pas. J'en avais parlé à plusieurs reprises à Gergorin, qui m'avait toujours nié, devant témoin, à être le corbeau. Donc pour moi, j'avais...
Est-ce que à cette époque, vous avez un lien, d'une manière ou d'une autre, avec Dominique de Villepin?
Ni à cette époque, ni aujourd'hui. Si on me pose la question, c'est ce que je vais dire au magistrat, je sais que je n'ai rien fait.
Est-ce que vous souhaitez une confrontation entre vous et le général Rondeau, peut-être en présence de Jean-Louis Gergorin?
Je souhaite vivement cette confrontation pour pouvoir mettre les uns et les autres devant leurs contradictions.
Le 27 juillet 2007, nouveau coup de tonnerre. Après 17 heures d'audition, les juges Duy et Pons, qui n'ont pas eu l'autorisation d'entendre le président de la République, Jacques Chirac, décident de mettre Dominique de Villepin en examen pour complicité de dénonciation calomnieuse, recel de vol, abus de confiance et complicité d'usage de faux. À sa sortie du pôle financier au palais de justice de Paris, l'ancien Premier ministre réagit.
Je tiens à redire ce matin qu'à aucun moment je n'ai demandé d'enquête sur des personnalités politiques. Qu'à aucun moment je n'ai participé à une quelconque manœuvre politique. J'ai agi pour faire face à des menaces internationales, j'ai agi pour faire face à des menaces concernant nos intérêts économiques. C'est strictement dans ce cadre que j'ai agi. C'était mon devoir comme ministre. Je ne vous cache pas que ces mises en cause sont douloureuses pour moi et pour ma famille, mais je me battrai pour que dans le cadre de l'instruction, la vérité puisse enfin apparaître, et je répondrai naturellement à l'ensemble des questions qui me seront posées.
Fin décembre, les juges organisent plusieurs confrontations entre Imad Laoud et le général Rondeau, puis avec Dominique de Villepin et Jean-Louis Gergorin. Et là, le général affirme avoir alerté l'ancien Premier ministre sur le fait que les listings étaient un montage et qu'il ne fallait pas donner de suite à cette affaire. Enfin, le 22 février 2008, les juges terminent leur instruction avant d'annoncer, quelques mois plus tard, le renvoi de Dominique de Villepin et de tous les autres prévenus en correctionnel. En résumé, ils sont accusés d'avoir participé à une machination destinée à déstabiliser Nicolas Sarkozy. Et c'est ainsi que bon an, mal an, malgré les embûches et les nombreux rebondissements qui ont parsemé l'enquête et malgré tous les recours qu'a engagé Dominique de Villepin pour ne pas se retrouver devant un tribunal, lui et tous les prévenus de cette affaire comparaissent le 21 septembre 2009 en correctionnel devant la 11e chambre. Et les rôles de chacun semblent être désormais bien établis. Jean-Louis Gergorin, le corbeau. Imad Laoud, l'auteur des faux listings. Denis Robert, le journaliste qui en savait trop et dont la présence dans le box des accusés provoque en soi un malaise. Enfin Florian Bourges, celui qui pensait agir dans l'intérêt de la justice et de l'information en diffusant les véritables listings Clearstream à Imad Laoud. À la barre, face à Imad Laoud et Jean-Louis Gergorin, Dominique de Villepin tient les premiers rôles. Est-il donc celui qui a orchestré à distance cette manipulation pour nuire à son rival Nicolas Sarkozy dans la course à la présidentielle de 2007? D'emblée, il nie avoir participé à une quelconque machination à l'encontre de celui qui est l'actuel chef de l'État. Or, ses déclarations s'effondrent comme un château de cartes lorsque le général Philippe Rondeau, invité à témoigner durant 8 heures face au juge, contredit point par point le discours de défense de l'ancien Premier ministre. Alors, au fil des jours, les débats semblent s'enliser, chacun se rejette la faute, c'est pas moi, c'est lui. Imad Laoud affirme que c'est Jean-Louis Gergorin qui lui a demandé de modifier les listings, lequel répond qu'il a reçu d'Imad Laoud des listings déjà modifiés. Ici s'écrit le dernier épisode d'un règlement de compte au sommet de l'État, entre un président de la République et un ancien Premier ministre. Pour preuve, la déclaration fracassante de Dominique de Villepin face aux caméras après l'annonce du procureur de Paris qui requiert contre lui 18 mois de prison avec sursis pour complicité de dénonciation calomnieuse.
Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue.
Le 28 janvier 2010, les journalistes se pressent à la sortie du palais de justice de Paris. Le tribunal vient de rendre son jugement dans l'affaire Clearstream. Dominique de Villepin est relaxé. Jean-Louis Gergorin et Imad Laoud sont condamnés à des peines de prison ferme, 15 mois pour le premier, 18 pour le second. Denis Robert est relaxé. Le tribunal estime que sa complicité a été involontaire dans cette affaire, donc pas de complicité, au fond. Quant à l'ancien auditeur Florian Bourges, il écope d'une légère peine de prison avec sursis, 4 mois. Une heure plus tard, Nicolas Sarkozy réagit par communiqué de presse. Il se réjouit, je cite, que la justice reconnaisse la manipulation. L'affaire est close, dit-on à l'Élysée. Mais pour Dominique Payet, porte-parole adjoint de l'UMP, par exemple, ce jugement laisse tout le monde, lui en tout cas, sur sa faim.
Ce que j'aurais aimé, c'est que la justice nous dise pourquoi cette machination a été mise en œuvre. Pour servir qui ? Pour bénéficier à qui ? Cette question-là est aujourd'hui sans réponse et c'est un peu dommageable. Elle donne une petite impression regrettable que les lampistes sont condamnés mais que peut-être les commanditaires ne le sont pas.
Un an plus tard, la Cour d'appel confirme la relaxe de Dominique de Villepin et les condamnations de Jean-Louis Gergorin et Imad Laoud. Ainsi se termine cette histoire qui aura révélé la violence de la compétition interne au sein de l'UMP entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy et les méthodes de cette famille politique. Elle aura également bien servi celui qui, entre-temps, a été élu président de la République. Il a pu, tout à loisir, exploiter sa condition de victime. Il arrive ainsi qu'on soit à la fois victime et bénéficiaire d'une affaire. Quant à Dominique de Villepin, il s'est maintenant rapproché de Nicolas Sarkozy. Feront-ils route ensemble ? Possible, car tout passe, tout lasse, y compris cette affaire Clearstream, que l'on peut traduire en français, rappelons-le, par « courant clair ».
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Clearstream avec notre invité chez lui, Franck Cognard, bonjour.
Bonjour.
Je dis chez lui parce que Franck Cognard est chef du service société de France Inter et il a longtemps été journaliste au service police-justice, hein, c'est vraiment votre spécialité, toujours à la rédaction de France Inter et vous avez suivi cette affaire dès les premières révélations jusqu'au procès. Alors cette affaire Clearstream, ça pourrait être un peu l'affaire des affaires. Je veux dire qu'elle a tous les ingrédients de l'affaire politico-financiero-judiciaire. D'ailleurs, quand on est journaliste et qu'on couvre ce genre d'affaires, ça doit être un petit peu envahissant, hein, soit dit au passage. Dans quelles conditions vous avez réussi à travailler dans ce dossier entre complexité, manipulation peut-être, tentative de manipulation, toutes ces difficultés-là?
Bah, je vais vous surprendre. Déjà, j'ai pas travaillé tout seul, je travaillais avec Mathieu Aron, parce que c'est une affaire, quand on l'a prise en septembre, octobre 2004, qui est au moment où on parle d'une affaire de dénonciation calomnieuse, on se retrouve face à une affaire qui grossit. Travailler tout seul là-dessus, c'est à peu près impossible. Alors, il y a ce côté affaire hors norme, parce que il y a eu, quand on avait fait le bilan au moment du procès, il y avait eu plus de 100 personnes interrogées en Raffarin, Villepin, MAM, etc. Il y a eu des perquisitions, faut s'en souvenir, affaire hors norme, perquisition à la DGSE. Jamais la justice avait mis les pieds à la DGSE. Il y a des perquisitions à la DST, perquisition chez Dominique de Villepin, dans son bureau au ministère des Affaires étrangères. Enfin bref, on était face à une affaire hors norme qui a donné lieu, je crois que c'était une quarantaine de tomes d'instruction quand ça arrive dans la salle du procès, puisqu'ils sont là, ces tomes-là. Ça marque, on voit qu'il y a un travail de judiciaire absolument incroyable. On est même allé à dépenser des sommes d'argent folles, je me souviens. 100 000 euros avaient été dépensés pour expertiser un disque dur ou un DVD retrouvé chez Dominique de Villepin, un décryptage à fond qui avait demandé des heures de travail à des informaticiens, tout ça pour retrouver les premières versions de ses œuvres littéraires. Donc on était face à une affaire absolument incroyable, mais qu'on a, pour travailler, pour arriver à sortir des informations sur cette affaire, pour arriver à la suite, finalement on a travaillé comme on a travaillé sur toutes les autres affaires judiciaires qui étaient en cours. On a rencontré des avocats, des enquêteurs, qu'ils soient policiers ou autres, on a rencontré des gens qui étaient en marge de cette affaire, un peu barbouzard. On a rencontré tous ceux qu'on rencontrerait dans une affaire classique. Sauf que là, la démesure de cette affaire, bah, c'est les personnalités qu'il y avait dedans. C'était, moi, je me souviens de cette perquisition à la DGSE, mais vous imaginez une perquisition à la DGSE dans le Saint des Saints, le plus secret du plus secret du plus secret en France. C'est absolument incroyable. Et donc, dans ces cas-là, il faut travailler comme on a l'habitude. C'est-à-dire, on a une information, une source, on vérifie, on contre-vérifie. Il faut procéder comme ça. Simplement, dans cette affaire, ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus dur, parce que beaucoup de protagonistes, donc beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de contradictions dans les déclarations, dans une affaire en plus où tout le monde a menti, hein, tous. Donc on se retrouve à avoir, on a travaillé beaucoup sur de très très longues journées. Moi ça a représenté en pointillé, mais comme pour Mathieu Aron avec qui on travaillait, ça a représenté, elle est de septembre 2004 jusqu'au procès en appel en 2010, ça a représenté 6 ans en pointillé, alors avec une grosse période 2004-2005, et puis après ça s'est un petit peu espacé, mais il y a toujours eu ce fond de Clearstream qui nous a occupé pendant 6 ans.
Alors c'est pas une conversation boutique, hein, la journaliste qui parle à un autre journaliste, mais les auditeurs aiment savoir aussi comment fonctionne la démocratie finalement, c'est-à-dire comment des journalistes arrivent à avoir des informations dans une affaire où, vous le dites très bien vous-même, tout le monde ment. Est-ce qu'il y a eu des témoignages de gens qui sont venus vous voir spontanés? Est-ce qu'il y a ça aussi dans ce genre d'affaires?
Non, je sais qu'il y a des moments quand on sentait qu'on approchait sur quelque chose, bizarrement des portes s'ouvraient, des gens qui ne voulaient pas nous voir voulaient finalement bien nous voir. Ça s'est passé, dans mon souvenir, avec Jean-Louis Gergorin, qui au début voulait pas trop, puis qui après, quand il voit qu'on a des éléments, veut bien. Ce qui était intéressant dans cette affaire aussi, c'est que je sais qu'il y a l'image d'une affaire politico-financière énorme, avec beaucoup de pression sur les journalistes. Et en fait, la pression, pour moi, elle venait plus de la rédaction. C'est-à-dire qu'on disait, cette affaire, elle est tellement complexe, la pression que vous avez, c'est de nous la rendre intelligible. Mmh. Et pour moi, on a plus travaillé avec cette optique-là.
Une pression positive, d'ailleurs.
Les manipulations, quand on travaille dans ce milieu, police-justice, de toute façon, quand un flic, un avocat, un magistrat, quand vous avez une conversation avec, qui vous lâche quelque chose, faut toujours avoir à l'esprit. Pourquoi il me dit ça maintenant?
Bien sûr.
Donc, on a travaillé, comme d'habitude, sur une affaire. Simplement, c'est l'envergure qui a tout changé dans cette affaire-là.
Bien. Alors, la question centrale, c'est finalement à qui profite le crime. C'est-à-dire, quel est le sens de toute cette manipulation? Qui veut obtenir quoi en manipulant?
C'est compliqué.
Parce que la justice n'a pas vraiment répondu à ça.
La justice, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu à cette question essentielle. Dans quel but?
Mais c'est ça.
On ne sait pas. Alors après, on a chacun une conviction. Moi, j'ai la conviction que la justice s'est peut-être trompée. C'est basé sur des éléments qui sont dans l'affaire Clearstream et pour moi extérieurs à l'affaire Clearstream aussi. Quand on dit que, par exemple, Imad Laoud a travaillé sur ordre de Jean-Louis Gergorin, que Jean-Louis Gergorin a été le commanditaire, finalement, pour introduire ces noms, pour bidouiller ces listings. Je n'en suis pas sûr, parce que j'ai vu dans un procès annexe, un jour, Imad Laoud, qui donc avait déjà été condamné pour une escroquerie, fonds Voltaire, avec son beau-père en 2000, pendant le déroulé de l'affaire Clearstream, se retrouve devant une chambre du tribunal correctionnel de Paris pour être jugé dans une affaire d'escroquerie à 100 000 euros avec un partenaire de golf, dans mon souvenir, avec des ramifications au Liban. Les preuves dans ce dossier, affaire très simple d'escroquerie accablante contre Imad Laoud, accablante. C'était en 2006. J'ai vu à la barre Imad Laoud, pour se défausser, reporter toute la responsabilité de cette affaire sur ses frères et sur sa mère. Et je me suis dit, à ce moment-là, que quelqu'un qui en arrivait à ce point-là, malgré les évidences, malgré les preuves accablantes qu'il y avait devant le tribunal, s'il en arrive à ça, c'est qu'il est capable de n'importe quoi. Et ma conviction, c'est que Imad Laoud a intoxiqué tout le monde dans cette histoire, qu'il n'y a pas eu de commanditaire au-dessus de lui. Mais je vous dis, c'est ma conviction, c'est pas celle de la justice, mais la mienne, c'est que c'est lui qui a intoxiqué tout le monde dans cette affaire.
Mais c'était quoi les motivations d'Imad Laoud? C'est un peu le Père Noël dans cette affaire. Il apporte à chacun ce que tout le monde cherche. Quoi.
C'est ça. Imad Laoud, c'est un homme qui a besoin de se racheter. Quand on prend l'affaire à ses tout débuts, c'est-à-dire 2002-2003, c'est un homme qui a besoin de se racheter. Il sort de prison. Il est le gendre de François Heilbronner, ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac. Il est marié à sa fille, grosse famille. Et lui, il est trader, mathématicien, il travaille à Londres. Et avec son beau-père, il monte une affaire de fonds d'investissement qui s'appelle le fonds Voltaire, levé de fonds, 40 millions d'euros ou de dollars dans mon souvenir, faillite frauduleuse. Il fait 3 mois de préventif. Quand il sort de prison, Imad Laoud, il a besoin de redorer son blason quelque part, de montrer qu'il n'est pas le petit escroc que la justice désigne.
D'accord.
Et donc, à ce moment-là, se nouent ses relations avec Jean-Louis Gergorin, donc qui est chez EADS. Qui lui est dans sa parano parce que son patron de cœur, Jean-Luc Lagardère, est mort dans des circonstances étranges et qu'il est persuadé qu'il y a un complot qui est pour assassiner Jean-Luc Lagardère. Il rencontre le général Rondeau. Et c'est intéressant parce que qui est le général Rondeau dans cette affaire? Le général Rondeau, c'est le fils d'un agent de renseignement, lui-même père d'un agent de renseignement. Il est, à cette époque-là, il est chef du renseignement et des opérations spéciales directement sous la ministre de la Défense. C'est un homme c'est celui qu'on a vu aller chercher Carlos au Soudan en 94. C'est un homme qui a mal vécu le fait de n'avoir pas réussi à sortir les moines de Tibérine, de ne pas avoir la vérité là-dessus, et qui donc a aussi un fort besoin de se racheter. Et ce que lui présente Imad Laoud, à lui, c'est les comptes de la famille Oussama Ben Laden. C'est le Graal à ce moment-là pour un agent de renseignement de pouvoir rentrer dans la finance d'Oussama Ben Laden. On est eu un an et demi après le 11 septembre.
Et c'est Al-Qaïda qui règne sur le terrorisme.
Absolument, absolument. Et donc, Imad Laoud va dire au général Rondeau, en gros, moi, avec ces listings que j'ai récupérés, que j'ai piratés, c'est ce qu'il dit au début. D'ailleurs, il fait des démonstrations dans des squares avec des ordinateurs sur des bancs à Rondeau pour lui montrer combien il peut pirater à partir de on ne sait pas quoi d'ailleurs. Rondeau est enfumé. Laoud continue son histoire. Et donc, à chaque fois, Laoud va saisir ce qui intéresse son interlocuteur. Les listings, ils vont intéresser aussi quelqu'un qui est insoupçonnable dans cette histoire, qui est le juge Van Rienbeek. Faut pas oublier que c'est lui qui va en démontrer la fausseté juridiquement, mais lui aussi va se laisser prendre. Pourquoi? Parce qu'on lui vend la clé de l'affaire des frégates de Taïwan. C'est-à-dire ce système de commission-rétro-commission entre la France et Taïwan pour l'achat de navires militaires. Et
affaire extrêmement grave.
Affaire extrêmement grave. Avec des morts et des mystères encore nombreux là-dedans. Et à chaque fois, Laoud, à travers ses listings, offre le cadeau. Donc à Van Rienbeek, c'est la clé de l'affaire des frégates. Au général Rondeau, les comptes de Ben Laden. À Jean-Louis Gergorin, les possibles commanditaires et ses ennemis industriels, ceux qui ont possiblement commandité l'assassinat de Jean-Luc Lagardère. Et puis à Dominique de Villepin, il vend la peau de Sarkozy, parce qu'on est quand même...
Et c'est pas rien.
On est 7 ans après 95 baladuriens chiraciens. En 2002, Chirac forcé reprend dans son équipe Nicolas Sarkozy, le traître. Il le met ministre de l'Intérieur. Mais son fils préféré, c'est plus Sarkozy. c'est de Villepin maintenant.
Bien sûr.
Et donc, de Villepin et Sarkozy vont s'affronter à travers cette histoire-là aussi. Donc, on est dans cette guerre-là. Et puis, il y a aussi une guerre industrielle encore. Il y a une opération incroyable qui s'est passée quelques années avant qui s'appelle l'opération Couper les ailes de l'oiseau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'opération
non.
Couper les ailes de l'oiseau.
Non, alors allez-y, parce que alors, ça, en tout cas, je ne m'en souviens pas.
Ça va vous donner un petit contexte. C'est 92-96, deux groupes rivalités industrielles. Matra achète, Jean-Luc oui. Lagardère, et Thomson, dirigé par Gomez. Et cette guerre, c'est sur fond de contrat d'armement encore une fois. Les services secrets français inquiets de ce qui se trame enquête. Tout le monde est persuadé que c'est la CIA qui est derrière tout ça, qui veut taper dans le précaré français. Et découvre qu'en fait la rivalité, elle est entre Thomson et Lagardère. Il y a d'ailleurs une scène, mais encore une fois dans un film, on dirait mais non, c'est trop. Cette scène a existé, elle a été racontée judiciairement au tribunal. C'est Alain Gomez, le patron de Thomson, un jour sur un escalator qui descend dans une station de métro de Paris, remet à quelqu'un qui monte sur l'escalator, qui monte ensuite dans le sens inverse, un sac plastique avec 1,5 million de francs en espèces à l'intérieur. Et donc il y a cette rivalité industrielle là entre les Lagardère Boys et les Thomson Boys, dont Lagardère Boys, Jean-Louis Jergorin. Et tout ça participe, c'est un peu décousu, mais tout ça participe vraiment à une sorte de toile de fond incroyable qui est la matrice de Clearstream.
Franck Cognard, je vous le répète, ça n'a rien de décousu, au contraire. On va continuer comme ça avec les personnages, parce que c'est, comme vous dites, c'est un film, mais intéressons-nous aux personnages. Gergorin, alors, donc, Laoud Rondeau veulent en gros se racheter, ou voilà. Gergorin, il veut exister lui aussi. Est-ce qu'on est encore avec un personnage qui veut exister, qui veut peut-être prendre du pouvoir parce qu'il se rend très utile, voire précieux, voire indispensable?
Alors Gergorin, c'est un homme qui est très étrange. Quand on le rencontre d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que c'est une mécanique intellectuelle brillante. C'est-à-dire que esprit d'escalier, assez incroyable, on est souvent bluffé d'une conversation avec lui. Mais à côté, c'est ce que disait d'ailleurs un de ses amis, intellectuellement brillant mais cliniquement fou. C'est-à-dire que Jean-Louis Gergorin, dans cette affaire quand même, il a fait étalage d'une paranoïa absolument incroyable. Et lui, il est obnubilé par la mort de Jean-Luc Lagardère en 2003. Obnubilé, il persuadé que ça ne peut pas être une mort naturelle, que c'est forcément un assassinat et que c'est forcément des ennemis de Lagardère et de ce qui deviendra le groupe EADS qui ont cherché à porter un coup à cette entreprise. Et lui, il est vraiment dans cette optique-là. Pour lui, l'affaire Clearstream, c'est la clé possible pour découvrir qui sont les commanditaires de l'assassinat de Jean-Luc Lagardère. Et tout ce qui va se passer dans cette affaire pour lui doit être vu au travers de ce prisme-là, le prisme de sa paranoïa. Et c'est en ça qu'il est quelquefois touchant, d'ailleurs, à la barre du tribunal. Il avait des moments où il s'excusait presque d'être complètement parano et d'avoir été ainsi formaté, parce qu'il a aussi travaillé longtemps avec la DGSE, les services secrets, donc il y a une petite porosité, il en a gardé quelque chose aussi dans le comportement. On dit pas tout, on dit pas quoi, forcément, on ment un petit peu. Donc, personnage assez étrange, assez fantasque, brillant, mais aveuglé, obnubilé par cette histoire, et c'est cette histoire qui va le faire tomber parce qu'il a voulu aller trop loin, à mon sens, dans cette histoire.
Alors, on va pas faire de la politique fiction, mais cette affaire-là, si elle avait été mieux menée, si j'ose dire, et si je puis dire, elle aurait pu faire tomber beaucoup de monde. Des hommes politiques, notamment. Il y a une barbouzerie politique aussi dans cette affaire-là. Bon, il se trouve que c'est découvert, c'est démystifié, oui. Démystifié plutôt. Oui. Enfin, elle aurait pu faire tomber beaucoup de monde.
Elle faisait tomber Sarkozy. Si l'affaire avait marché, oui. Sarkozy tombait, et puis d'autres. Si je me souviens bien, il y avait DSK aussi dans
oui,
les comptes.
Absolument.
Et il y en avait quelques autres. Oui, ça pouvait les faire tomber. Si la fausseté des listings, donc la fausseté des comptes occultes cachés à l'étranger n'avait pas été démontrée, Sarkozy n'aurait peut-être pas eu la carrière politique qu'il a eue. Après, c'est de Villepin qui, en contrepartie, a pris et a sa carrière politique s'est achevée avec. Michèle Alliot-Marie aussi, dans une certaine mesure, quelque part. Elle se disait un petit peu à l'époque, si les deux grosses bouffent, peut-être que moi, il y aura une place pour moi un petit peu plus tard. Mais parce qu'on en est à ça aussi. Il y a un moment qui est clé dans cette histoire, c'est le printemps-été 2004. Au moment où on commence à savoir que les listings sont faux, et qu'il y a vraiment un problème avec ces listings-là. Ceux qui savent ne le disent pas. Pourquoi ils le disent pas? Parce que du bon, c'est fini, on passe à autre chose. Mais non, c'est parce que si on laisse l'instrumentalisation se poursuivre en faisant « je touche à rien », quelque part, si ça peut salir votre ennemi, ça le salira et c'est parfait, c'est tout bénéfice pour vous. Donc, encore une fois, cette affaire, elle est rivalité politique, rivalité industrielle, tout ce que vous voulez, mais elle est pétrie d'humanité. C'est-à-dire ce qu'on a de pire parfois en nous. Le fait de vouloir le poste de l'autre, le fait de vouloir avoir l'argent de l'autre, le fait de vouloir trouver qui a fait ça, à qui... Enfin, profondément, profondément humaine pour moi, cette affaire.
Alors, il y a un dernier volet qui est intéressant, c'est le volet Denis Robert. Ouais. Parce que ça, c'est le volet de, je reviens à mes principes, à nos principes ouais. démocratiques, ouais. Hein, quand même, d'information. Bah, c'est un lanceur d'alerte, Denis Robert.
Oui.
Mais où il met les pieds? Alors là, c'est terrible. Il met les pieds dans un truc pas possible, dans un bourbier où il va s'enfoncer. Il va beaucoup en souffrir. Nous l'avions reçu, d'ailleurs, ouais. Denis Robert, hein, dans l'affaire Sensible. Parle-nous de cet aspect de Denis Robert.
Alors, Denis Robert, moi, c'est un journaliste que je respecte. Je sais que des fois, bon, toute la profession est pas derrière lui forcément. Voilà. Ouais. Moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément et qui, à mon sens, dans cette histoire, a pâti d'une chose, c'est d'un manque d'une rédaction derrière lui, d'un soutien. Oui. Journaliste indépendant. Donc, plus personne pour l'aider dans cette affaire qui, lui, a vraiment bouffé sa vie. C'est-à-dire que, à partir du moment où il commence à s'intéresser à Clearstream, la banque des banques, la blanchisseuse des banques parfois dans certains dossiers. À partir du moment où il commence avec Révélation en 2001, jusqu'à la fin de l'affaire en appel, il faut imaginer que Clearstream ne laissera jamais Denis Robert tranquille un seul instant. Dès qu'il va dire quelque chose, ça sera scruté par des juristes. Dès qu'il y a quelque chose qui sera peut-être un poil déviant, on le traduit, on le pousse devant un tribunal. Des dizaines d'audiences. Et à chaque fois, bataillon d'avocats payés par Clearstream. Dans la salle, des juristes payés par Clearstream. Et lui, Denis Robert, j'allais dire tout seul. Non, pas tout seul, mais quasiment tout seul. Donc vous imaginez qu'on va vous faire face là à cette pression énorme. Comment vous réagissez? Vous êtes tout seul ou quasiment tout seul. Il n'y a pas de rédaction qui vous soutient derrière. Il n'y a pas un directeur de la rédaction pour venir appuyer le travail de votre enquête. Donc il s'est retrouvé... victime, pour moi la victime la pire dans ce dossier. Sarkozy, je sais qu'on dit qu'il a été victime.
La plus injuste, on va dire.
La plus injuste, oui. Voilà, exactement. Lui, c'est un journaliste qui a enquêté au long cours, et puis alors de devoir se justifier systématiquement, non pas par son travail, mais devant un tribunal, c'est quelque chose qui a dû vraiment le dépasser. Moi, je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque du premier procès, donc 2009, où il était cité, etc. Son dérivatif, c'était d'exposer des œuvres d'art, des peintures et des collages d'ailleurs qui faisaient à partir des listings Clearstream. Donc voilà, il exposait ça à Paris en même temps qu'il y avait le procès. Voilà, j'avais trouvé cette image là de quelqu'un qui avait besoin de sortir de cette affaire là qui lui a bouffé 10 ans de sa vie, on peut le dire comme ça.
Alors parlons du procès, du travail de la justice au moment des procès. Quel regard vous portez sur, non pas les condamnations, parce qu'après tout, on ne va pas commenter des décisions de justice, mais toujours sur cette question, bien qu'on puisse le faire, toujours sur cette question, est-ce que la justice a répondu vraiment au fond du dossier, aux motivations? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part là un échec de la justice quand même, ce niveau-là au moins?
Quand au cours d'un procès, à la fin d'un procès, on n'arrive pas à dire dans quel but ça a été fait, qu'on n'arrive pas à établir avec certitude qui a falsifié et quand, à quel moment. Parce que c'est un peu le cas pour Laoud. On dit c'est le falsificateur, mais il y a des petits éléments qui manquent. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement pourquoi il aurait fait ça. Quand on dit Gergorin ne peut être que le donneur d'ordre, la justice, à mon sens, n'a pas trouvé les bonnes réponses.
Ça laisse un goût d'inachevé.
Ça laisse un goût d'inachevé parce que moi j'ai le sentiment qu'elle n'a pas pris en compte à ce moment-là le côté humain, le volet humain de cette affaire. Ce que je vous disais tout à l'heure sur, faut pas oublier que nous sommes que des hommes et que quand on présente à quelqu'un la peau de son ennemi, celui qu'on veut absolument, il y a des réflexes de prudence et tout ça qui ne marchent plus. Quand on offre à chacun ce qu'il veut, on réfléchit peut-être pas trop. Et je pense que pour moi, la justice n'a pas fait ce travail précis là, en allant chercher là s'il y avait des réponses, on ne sait pas. Et donc ça laisse ce doute et cette interrogation sur pourquoi à un moment on met Stéphane Boxa, Paul de Nagy dans les listings pour figurer Nicolas Sarkozy. On ne répond pas profondément à ça.
Bien, merci infiniment Franck Cognard pour tous vos éclairages et votre connaissance si précise de ce dossier-là. C'était tout sauf confus, vous savez, c'était formidable.
Tant mieux.
Mais oui, je vous le dis. Merci.
Merci à vous.
Au revoir, à bientôt. C'est l'affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Clearstream, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les années Thatcher et le sort qu'elle a réservé aux mineurs de son pays.